Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Célia Penfornis et Zeynep Morali, bonjour.
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 Je vous présente, vous êtes les fondatrices de Printemps Bruyant, une association qui se définit comme un pôle de ressources et de reliance pour une culture partagée de l'écologie. Un fleuve en commun, c'est l'événement qu'on annonce aujourd'hui. Ça se passe vendredi 11 et samedi 12 octobre entre Rennes et Saint-Senoux. C'est au sud de Rennes, à environ 30 km. Et on va commencer par vous représenter. Printemps Bruyant, c'est un projet qui a été lancé au printemps 2020, au début de la crise sanitaire, avec cette envie de partager des ressources, des contenus autour de l'écologie, notamment ça a commencé plutôt avec les newsletters régulières auxquelles on peut toujours s'abonner, on en dit un mot.
On a en effet lancé cette association, enfin on l'a imaginé à ce moment-là, qui était ce printemps confiné, et notamment en référence à un des ouvrages qu'on a lu à ce moment-là, qui est le livre Printemps silencieux de Rachel Carson, édité par Wild Project, avec qui du coup on a développé aussi des liens depuis. Et c'était vraiment cette idée, voilà, de se partager des ressources, des choses qui, alors à la fois enthousiasmantes, on est beaucoup aujourd'hui dans ce discours de l'écologie joyeuse et tout ça, mais c'était aussi, voilà, politiquement, quoi, des choses qui sont importantes pour qu'on on repense notre rapport au monde, voilà, nos manières d'habiter, de manger, de consommer. C'était cette idée d'une culture, voilà, c'est pas seulement des événements culturels, mais c'est refaire une culture commune autour de ces enjeux-là qui nous semblaient intéressants. Donc on continue en effet à partager ces contenus dans ces newsletters et puis sur un site qu'on a essayé d'éco-concevoir avec un webmaster pour ça. Et voilà, donc tous ces contenus sont disponibles. Mais pour juste faire court, mais l'idée c'est justement d'être entre la pensée et l'action, quoi. Donc comment on passe de ces pensées inspirantes, nourrissantes, qui nous font changer de regard sur notre environnement, et comment on peut mettre en pratique des expérimentations qui vont nous amener à habiter notre monde autrement.
Sur la dernière newsletter, peut-être, est-ce qu'il y aurait un contenu ou une recommandation à laquelle vous pensez pour donner des exemples, eh bien, de cette culture que vous souhaitez partager avec les habitants ?
Ça va aussi bien de podcasts, je sais pas, c'était pas la dernière, mais l'avant-dernière, un podcast, une émission avec Yann Tiersen qui parlait de son rapport à l'île d'Ouessant où il habite et comment justement lui, une anecdote a changé un peu son rapport au monde, mais aussi son rapport à la langue, par exemple. C'est assez vaste, quoi, en fait. C'est vraiment parler d'écologie de manière assez vaste, donc ça peut être, on peut recommander des BD. Comme on peut recommander des articles, des artistes aussi, parce qu'on essaie de mettre en avant justement aussi des gens qui travaillent ces sujets-là. Voilà, c'est un peu l'idée d'avoir des regards différents qui nous permettent de nous donner envie d'être curieux.
Oui, puis de changer les manières de faire, c'est aussi ça en fait. Quand on a commencé les newsletters, on se partageait au début plein de choses et on s'est dit « il ne faut pas que ça reste entre nous deux ». Donc il faut qu'on le partage à un plus grand nombre. Et du coup, ça permet aussi aux gens qui n'ont pas le temps, comme voilà, nous, c'est un peu notre passe-temps, de se documenter, de partager ces ressources et qui donnent en fait de nouvelles idées pour faire des choses, des projets. Et puis surtout aussi cette partie ressources de textes, en fait, d'auteurs qui, depuis des années, nous inspirent. Et en fait, on veut quand même rappeler que ça fait très longtemps que ces sujets-là sont traités, quoi.
Le dernier texte, ou pas forcément texte d'ailleurs, mais contenu inspirant que vous avez croisé, Zeynep, ce serait lequel ?
Moi, c'est Val Plumwood, donc qui est australienne et qui a écrit un texte...
Qui s'appelle Dans l'œil du crocodile.
Dans l'œil du crocodile. Qui a aussi... Enfin, il y a un peu... Tous ces textes n'ont pas été encore traduits... et du coup, voilà, son rapport au monde en fait m'a un peu changé en fait le mien, et en fait c'est aussi ça qu'on veut montrer, c'est d'autres rapports au monde.
Elle rappelle notre vulnérabilité, quoi. C'est aussi la manière de se penser autrement, non plus comme dominant de cette nature.
Du coup, voilà, elle a été à deux doigts de se faire manger par un crocodile, et donc elle raconte qu'on est aussi une proie en fait, Et ça, ça m'a un peu touchée, quoi.
Votre spécificité, au-delà de partager des références, des contenus, aller lire, voir, écouter, c'est aussi de mettre en lumière des propositions, des actions existantes, parfois de relier les énergies. Vous avez donc collaboré depuis 2020 avec plusieurs structures ou événements sur le territoire breton. Je pense à Comptoir du Doc, d'où vous venez, Célia, où vous êtes passée.
Il y a un peu un lien, en effet, c'est vrai.
Oui, il y en a d'autres.
Ouais, on a travaillé, pas que sur Rennes, en fait, on a travaillé aussi avec des librairies du territoire breton. On a travaillé avec, on a démarré par exemple au Musée de Bretagne, où on avait fait une visite avec Estelle Zong-Mingual, la philosophe qui était venue parler des œuvres, qui parlait justement de la nature, pour parler de la nature autrement. Donc on a collaboré avec les Ateliers du Vent, avec les Transmusicales, avec
la Carène à Brest.
La Carène à Brest pour une table ronde, en effet, ouais. Et là, on a eu envie aussi que ça parte plutôt de notre proposition, non pas parce qu'on n'avait pas apprécié de travailler avec ces gens-là, mais parce que, en fait, on essaye aussi de se sortir d'un modèle dominant de la culture et puis plus largement de notre société, de la manière dont elle marche de manière hyper rapide, toujours dans plus d'événements, de production. Et qu'en fait, malgré toutes ces collaborations, vous voyez qu'on manque toujours de temps pour faire les choses, justement, pour pouvoir les développer autrement, avec un autre rapport au temps aussi, qui ça nous semble très important.
Ouais, je voudrais rebondir là-dessus. C'est vrai que l'idée de créer cette association, c'était aussi de ne pas refaire ce qui est déjà fait. Donc l'idée au début était ressources reliance, relier les gens, les initiatives, pour leur donner aussi une visibilité, parce qu'en fait on se noie aussi d'événementiel. Donc on est vraiment sur cette idée aussi de réfléchir comment on peut faire autrement et remettre aussi en question nos manières de faire actuellement qui, bon, ne sont pas forcément des fois productives par rapport au sujet que l'on traite, l'écologie, quoi. Mmh. Wow.
Oui, parce qu'il y a finalement aussi une forme de greenwashing dont elle touche aussi le monde culturel. C'est bien d'en parler, mais en fait, si on ne change pas du tout nos manières de faire, si on ne travaille pas sur une manière de renoncer, de réduire, de ralentir, et puis toutes ces questions aussi de gouvernance. Nous, on est vraiment dans cette approche de l'écologie qui est une lutte contre toutes les formes de domination. Il y a eu cette domination de l'homme sur la nature, de l'homme sur la femme, sur l'animal. C'est toutes ces formes de domination qu'on essaye aussi de mettre en lumière. Donc du coup, dans la manière de faire aujourd'hui aussi de l'événementiel culturel, il reste des formes de domination à l'œuvre et de compétition qui ne devraient plus être trop nos guides, nos moteurs.
Ça veut dire que pour organiser vos propres événements, du coup, vous prenez votre temps. La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était il y a un an, pour annoncer une programmation qui s'appelait « Aimons-nous vivants ». C'était un peu le premier temps fort pour votre association, en tout cas le premier événement conséquent que vous organisiez sur le concept de bio-régionalisme, une écologie et penser à l'échelle des territoires et puis de leurs spécificités. Ça avait marché comment ?
On était victime du réchauffement climatique, puisqu'en fait on avait fait ça début septembre l'année dernière et qu'il faisait une chaleur et il faisait plus de 40 degrés, donc on avait quand même réuni une quarantaine de personnes aux Ateliers du Vent et puis une bonne trentaine à la librairie de Moncontour, mais c'est vrai que voilà, les gens avaient plutôt envie d'aller se mettre au frais donc c'est ce qui nous a peut-être inspiré le fait d'aller dehors cette année. Bon, il va faire très froid pour le coup.
Ce sera une autre ambiance cette année.
Mais ça avait bien marché, c'était des très chouettes échanges. Après voilà, on avait fait le constat qu'on était justement encore dans un format un peu classique, même si on était tous en cercle à échanger, c'était quand même un format dans un lieu en intérieur avec des gens qui venaient passer du savoir et puis d'autres en écoute, et que là voilà, on a eu envie de faire les choses un peu autrement cette année.
Le bio-régionalisme, il en sera finalement encore question dans l'événement qu'on va annoncer. Il y a les éditions Wild Project que vous avez déjà citées, qui sont installées du côté de Marseille, qui ont défini, on va dire, ce concept-là. Mmh. Est-ce que je peux vous laisser peut-être me lire cette définition, enfin, je trouve qu'elle est très parlante sur le communiqué de l'événement.
Le qu'est-ce qu'une biorégion, là,
oui.
Parce qu'elle est un peu longue, mais on peut la lire.
Ouais. Bah ouais, on a le temps. Hein.
C'est donc un ouvrage de Mathias Rollo et Marin Schaffner, donc qui sera avec nous ces 11 et 12 octobre, qui dit donc que la plupart des habitants d'un pays développé ne savent pas d'où vient l'eau qui coule au robinet, où partent les déchets jetés à la poubelle, quel type de sol sont sous nos pieds, quand est la prochaine pleine lune, quand planter quels légumes, quel oiseau chante le matin à nos fenêtres. Parler de biorégion, c'est se demander où et avec qui nous vivons en ce sens large, pour réapprendre de ces lieux où nous sommes et pour cohabiter avec d'autres vivants. Une biorégion, c'est un lieu de vie où toutes les parties prenantes s'efforcent de vivre ensemble de façon pérenne, en repartant des bassins versants, des microclimats, des types de sols, de la vitalité de la faune et de la flore. Un territoire habituel se redessine.
Donc, eh ben, il y est question de bassin versant, ça nous amène au thème de l'eau que vous avez choisi d'explorer avec ce nouvel événement qu'on annonce. Un fleuve en commun, ça se passe vendredi 11 et samedi 12 octobre entre Rennes et Sens-Noux, à 30 km au sud de Rennes. Comment vous vous êtes arrêté sur ce thème? Ça permet de parler de plein de choses d'actualité sur une région comme la Bretagne.
Bah oui, en fait, c'est vrai que c'est un des éléments centraux du biorégionalisme, ce sont notamment ces bassins versants, et que ça nous semblait intéressant. Finalement, on est dans une ville où voilà, il y a la Vilaine qui coule, qu'on vous regarde pas forcément, sans doute on la regardera un peu plus quand elle sera découverte, c'est aussi un peu dans l'actualité de la ville. Mais il y a eu des artistes qu'on avait invités, comme Alexis Fichel l'an dernier, qui lui avait déjà travaillé là-dessus, avec ce guide de la Vilaine, donc c'était assez logique, voilà, qu'à un moment donné on revienne vers la rivière.
Il y avait aussi Catherine Duverger, avec laquelle on avait développé un atelier lors de sa résidence
au Carré d'Art.
Oui, et du coup qui voilà travaillait sur la pollution
de la Seiche.
De la Seiche.
Oui, parce que bon, en plus l'eau est particulièrement de mauvaise qualité dans le département de l'Ille-et-Vilaine aujourd'hui, donc on parle de quantité, de qualité d'eau, et il y a pas mal de ressources, pas uniquement locales, qui vous ont inspiré, des films, des articles de presse, puisque ce que vous aimez bien, c'est partager des contenus avec le grand public. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur l'une d'elles, peut-être à conseiller aux auditeurs? Enfin, moi j'ai découvert là, par exemple, qu'on détournait l'eau de la Loire pour soutenir le surtourisme en Ardèche. Il y a plusieurs ressources en tout cas qui vous ont inspiré avant l'événement qui va avoir lieu cette semaine.
Bah ça, c'est vrai que c'est assez dingue quand même de lire que en fait quand on fait du canoë dans l'Ardèche, c'est avec l'eau de la Loire. C'est vrai que c'était un peu une découverte aussi, et voilà, ça montre bien qu'en fait on s'intéresse pas tellement à ces questions là sinon, mais finalement ça nous concerne dans tous les gestes quotidiens. Et voilà, c'est vrai qu'on citait des films comme La rivière de Dominique Marchais, mais on peut aussi penser à la dernière BD de Davodo, Loire, qui a un très bel hommage à la rivière. En fait, il y a vraiment aujourd'hui, c'est vrai, plein de gens qui s'intéressent à ces questions-là. Enfin, ce qui nous motive aussi, c'est justement de croiser tous ces regards-là. En fait, on peut avoir le regard de, bah, vous parlez de pollution, des regards beaucoup plus techniques sur ces questions-là. On aura aussi l'association Rivières de Bretagne qui sera avec nous vendredi soir. Donc, on peut croiser des points de vue, des apports de connaissances, et c'est vraiment l'idée de ce moment.
Oui, puis le collectif d'artistes qu'on a du coup créé autour de ce projet aussi nous a beaucoup inspiré dans ces recherches. Donc bon, on peut peut-être les nommer parce que c'est vrai que c'est...
Il faut expliquer que donc, vous expliquiez que vous avez envie de renouveler les façons d'imaginer un événement. Là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez donc créé votre collectif multicasquette, puisqu'on retrouve plein de gens qui ont des professions différentes et qui vont marcher ensemble pendant 2 jours, c'est ça l'idée?
Voilà. C'est exactement ça l'idée.
Oui, en fait, c'était suite à l'événement de l'année dernière, on s'est dit oui, on reste assis comme ça. Et les artistes, bon, certains comme Catherine Duverger ou Alexis Fichet étaient déjà présents dans la table ronde l'année dernière. Et ces gens travaillent sur l'arpentage. Et on s'est dit, mais voilà, il faut qu'on sorte aussi de ce modèle de rencontres, conférences, table ronde, et qu'on aille marcher
ensemble
et créer des moments ouverts pour discuter. Et voilà, bon, pour l'instant, on est sur une forme de marche qu'avec ce petit groupe, parce qu'on n'a pas le moyen, les temps encore, de développer autre chose. Mais l'idée, c'est de créer d'autres formes de rencontres et de discussions tout en marchant et en allant au plus proche, en fait, aussi... des territoires en fait qui nous entourent, pour aussi voir collectivement ce qui se passe écologiquement sur nos territoires.
Cet aspect collectif, il est vraiment important pour nous parce que on le voit aussi avec les artistes qu'on peut rencontrer. Il y a quand même beaucoup de travail de manière solitaire, ouais. Et beaucoup d'artistes en souffrent en plus de leur précarité aussi économique. Mais voilà, ces temps de rencontre et d'échange, et sans réel objectif final aussi, c'était ça un peu la liberté qu'on avait, c'était de se dire voilà, il y aura sans doute des choses qui vont sortir de ces 2 jours d'arpentage, mais en tout cas on se donne pas, voilà, il n'y a pas une production finale forcément attendue. C'est aussi un temps à la fois, bah, quand on a démarré, c'était ces 3 principes, ce temps pour soi, pour être avec les autres, et puis pour être avec plus largement le territoire, l'environnement.
Alors c'est une quinzaine de personnes qui vont cheminer ensemble le long de la Vilaine, des artistes, des chercheurs, des défenseurs de l'environnement. J'ai par exemple noté la présence d'Alexandre Patureau. Il y a pas mal de gens qui sont déjà passés au micro de Canal B avec l'association Wild Bretagne qui porte des projets de forêts sauvages. Alexis Fichet qu'on a cité, auteur et metteur en scène. Lise Godert qui est photographe et plasticienne. L'auteur de bande dessinée Lomic. Le comédien Patrice Le Saec. Il y a aussi des élus, Ludovic Brossard qui est élu à la ville de Rennes et Rennes Métropole, aux Rivières de Bretagne qui sera présent à travers la personne de Pauline Pénaubert qui est chargée de mission politique de l'eau. Combien de kilomètres ils vont parcourir durant ces deux jours qu'on espère pas trop pluvieux du coup?
Alors on a un peu réduit l'ambition parce que justement on voulait aussi prendre le temps, donc prendre le temps de s'arrêter, de regarder. Donc en fait on fera une douzaine de kilomètres chaque jour, on va pas faire l'entièreté du chemin. On aura une petite partie entre Bru et les Guichins qu'on va pas couvrir cette fois-ci, mais bon l'idée c'est de continuer ces projets.
Du coup, ces deux marches, il y en a une, c'est l'entrée vers la ville, la première, donc qui se termine.
On remontera vers Rennes.
Voilà, ouais. À Pasteur, à 19h, donc la rencontre.
Le vendredi.
Du vendredi soir.
Vendredi soir. Et l'autre, c'est du coup, de Bourg-des-Comptes à la Mare aux Mortiers, à Saint-Snoux.
Là, on suivra le cours du fleuve.
Et donc, ces deux temps de marche, ils amèneront à des échanges là ouverts au public à chaque fois en fin de journée. Une façon d'élargir l'échange. En direction des citoyens. Le vendredi 11 octobre, ça se passera en ville, à l'hôtel Pasteur à Rennes, sous forme de conversation dessinée. On imagine qu'il y aura peut-être Lomi qui sera mobilisé.
Oui, mais pas que. Enfin, on lui met pas la pression pour ça. En fait, c'est surtout Marin Schaffner et Clément Novaro qui sont. Alors, Marin Schaffner est éditeur chez Wild Project, mais il est aussi membre du collectif Hydromonde, qui justement est vraiment sur ces questions-là précisément. Et ils ont pour habitude d'animer des assemblées comme ça dessinées, où chaque Donc c'est vraiment cette idée de choses participatives où chacun peut venir raconter la rivière comme il la voit, comme il l'aperçoit, comme il la ressent. Et donc voilà, ils animent ces conversations dessinées avec, il y aura des feutres, il y aura des craies, il y aura de la matière pour dessiner, pour s'exprimer.
Et le samedi soir, on sort de la ville, direction l'aire de bivouac de Saint-Snoux, à 30 km au sud de Rennes, où dès 19h, c'est une veillée qui sera proposée aux habitants. Ça va ressembler à quoi ?
On n'a pas cité Julie quand même, Julie Seller qui travaille, avec qui on travaille aussi depuis l'an dernier, même un petit peu plus, et qui voilà, elle est habituée, une habituée des bivouacs et des marches, et donc c'est elle aussi qui guidera la marche
qui habite Saint-Snoux. Voilà. Et donc l'idée aussi par rapport au projet, quand on a pensé à Saint-Snoux, c'était aussi de s'inspirer de nos lieux de vie. Donc comme Julie habite Saint-Snoux, et prochainement Guillaume Lambert aussi qui est du coup, artiste et metteur en scène qui fera partie aussi des marches, c'était aussi de poser un temps en fait là-bas. Et en plus,
avec un accueil de la mairie.
La mairie qui nous accueille, et puis surtout ce premier temps, enfin espace de bivouac est à Saint-Snoux, donc tout concordait pour faire une veillée. Donc l'idée de la veillée, en travaillant avec la mairie, on a fait un appel aux habitants pour qu'ils viennent partager avec nous un repas. Donc on va faire un feu avec un bras zéro autorisé par la mairie. Et du coup, on va les accueillir pour échanger autour de leur rapport à la Vilaine, à l'eau, leur pratique.
En fait, Saint-Snoux, c'est aussi un grand lieu de veillée parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui organisent des veillées. Donc, il y en a une notamment avec la compagnie d'ici là, qui anime des chœurs de chant. Et donc, ils font aussi des veillées.
Et donc ça, ce sera à vivre à la Mare aux Mortiers, donc sur la commune de Saint-Snoux, le samedi 12 octobre. Pas besoin de s'inscrire pour participer à ces deux soirées, on vient librement.
Exactement.
Avec son pique-nique.
Son pique-nique et puis ses idées aussi. Et alors je dis que cette veillée du samedi 12 octobre, ce sera donc le temps de clôture de cette première phase d'exploration. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres.
On espère, oui, pouvoir continuer ce travail-là. C'est vrai que c'était pensé d'emblée comme quelque chose au long cours, quoi. Donc de pouvoir enrichir avec de nouveaux participants et puis sans doute aussi développer l'aspect rencontre avec les habitants des territoires. Donc c'est une asso entièrement bénévole, le Printemps Bruyant, donc on fait ça sur un temps à côté de nos activités professionnelles. Donc il nous faut du temps pour développer les choses, mais c'est bien l'idée de pouvoir continuer. cette approche-là.
On peut vous retrouver en ligne sur un site internet printempsbruyant.org. Et puis c'est le moment où je vous représente Célia Penfornis et Zainette Morali. Vous êtes donc les fondatrices de cette association qui se définit comme un pôle de ressources et de reliance pour une culture partagée de l'écologie. On peut s'abonner à votre newsletter en ligne et puis venir vous rencontrer lors de cet événement Un fleuve en commun. Ça se passe vendredi 11 et samedi 12 octobre entre Rennes et Saint-Snoux au sud de Rennes, c'est à 30 km au sud, avec donc des temps qui sont ouverts au public en soirée, le premier soir à l'hôtel Pasteur et le deuxième soir sur l'aire de bivouac de Saint-Snoux. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Beaucoup.